Bueno. Voilà. Donc on a vu cette petite phrase, cette ouverture par Avosha et Rabba. Bon, maintenant ils vont rencontrer Tranka qui va l'ouvrir la porte. Alors, ce qui restait un petit peu à voir, c'est toujours, comme toujours dans le Midrash, c'est le Machal. Le Machal, ça veut dire, le Midrash, il utilise une parabole. Et en général, il donne le sens de la parabole. On se demande pourquoi tu prends une parabole, si c'est pour me le dire. Dis-moi tout de suite la chose. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que il faut justement essayer de voir quelles sont les différences, en quoi la parabole est vraiment une parabole, mais n'est pas la copie de ce qu'on veut dire. Donc il faut regarder les différences. Alors par exemple ici, il y avait cette idée que Meler Bassar Vadam, bonnet platine, un roi de chair et de sang, il construit un palais, mais il ne le construit pas lui-même, il prend conseil des experts, des artisans. L'artisan lui-même, il ne construit pas lui-même, il prend conseil, enfin, il se fait aider par des spécialistes, par un cahier des charges, etc. Parce qu'il a besoin de savoir exactement combien de pièces il faut faire, combien de chambres, etc. De la même manière, Akadosh Baruch Hu m'habite Batora ou Boré Taola. Donc, vous savez, le problème qu'on avait vu, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en regardant la Torah. Donc, il a créé la Torah, 2000 ans après, ou peu importe, ça n'a pas d'importance ici, 2000 ans après, il a créé le monde, bonsoir, en regardant ce qu'en disait la Torah. Et donc la question qui vient immédiatement, c'est pourquoi il a besoin de passer par la Torah, qu'il a lui-même créée. Et ce point-là, il est déjà différent de la parabole. Parce qu'ici, c'est le même, c'est pas lui qui fait, mais il prend comme modèle quelque chose que lui a fabriqué. Tandis que le roi, il prend pas comme modèle quelque chose qu'il a fabriqué lui-même. Il prend comme modèle ce que les experts, ce que les artisans vont lui dire. Donc il y a déjà cette différence. C'est que quand c'est Akadosh Baruch Hu qui crée, il crée à partir de quelque chose qui vient de lui aussi. Alors que ce n'est pas le cas d'un roi de chair et de sang.
Et alors qu'est-ce qui est indicible ici?
Quoi?
Qu'est-ce qui est indicible ici?
Alors c'est ça, le problème c'est que on va voir. Et la Torah a dit, Bereshit bara Elohim, en Reshit et la Torah. Comme on dit, Hashem kanani Reshit darko, on voit ici que Reshit, c'est la tête. Donc, quelque part, quand on dit que Reshit, c'est la Torah, ça veut dire que la Bria, Elohim, a créé Reshit. Reshit, c'est pas un élément qui est extérieur. Reshit, c'est la tête. Oui, oui, c'est la chambre roche. C'est la tête. Ça veut dire que c'est la pointe avancée, en quelque sorte, comme si la Torah était la pointe avancée de la création. Il n'y a pas deux éléments. Il n'y a pas la Torah d'un côté et la création de l'autre. La Torah est le commencement, si vous voulez, la tête, comme un enfant qui naîtrait par la tête, c'est la tête. Et quand on continue, cette tête, elle se prolonge par la création elle-même. Et c'est en ça que ce n'est pas du tout la même chose que pour le roi de chair et de sang. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris le roi de chair et de sang? Parce que justement, on voulait c'est une façon de mettre en évidence la différence avec Hachem. Donc on prend cette parabole qui est la seule image qu'on puisse prendre, et on s'aperçoit que l'image, elle ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe dans la création, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs que dans le processus de création du monde. Où c'est, d'abord, c'est Hachem qui fait tout, y compris la Torah. Alors, maintenant, ça ne répond pas à la question, pourquoi est-ce qu'il est, il a passé par la Torah pour regarder la Torah, pour ensuite regarder la Torah et construire le monde. Mais il y a une réponse déjà. Il n'a pas, istakel beorekta ubara alma, ça ne veut pas dire qu'il a regardé dans la Torah et il a créé par le monde ici. Il a regardé dans la Torah, comme et la Torah est le commencement. C'est-à-dire qu'il a, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que quelque part, la création, c'est une suite de la Torah. Alors, dans quel sens une suite ? On pourrait prendre comme explication, si vous voulez, c'est comme si les versets de la Torah, ou les mots, ou les lettres, etc., la Torah elle-même, est un commencement au sens où ce serait une énergie, si vous voulez, et puis ensuite on va dégrader cette énergie, on va faire de cette énergie de la chaleur, de la lumière, etc. Les choses, c'est un épaississement, si on peut parler comme ça, un épaississement de la Torah. C'est-à-dire comme si la Torah était comme si la Torah était en dimension, en deux dimensions, et que maintenant, à partir de ce truc en deux dimensions, on va fabriquer un truc en trois dimensions, d'accord, qui est simple, mais qui n'est pas nouveau, c'est simplement comme si on pouvait faire grossir la deux dimensions en faisant trois dimensions. Comme si le texte de la Torah allait s'épaissir, donc c'est-à-dire devenir plus matériel, dans ce sens-là, et c'est ça qui va donner le monde. Et c'est en ça que c'est le début, pour bien montrer qu'il y a une continuité entre la Torah et le monde. Ça veut dire aussi que la Torah n'est pas quelque chose d'extérieur au monde, même si on le voit comme une loi, certains. C'est pas une loi qui est parfaite, qui est plaquée sur le monde. D'accord ? Parce que même une loi qui serait parfaite, mais plaquée sur le monde, c'est pas de ça qu'il s'agit. La Torah n'est pas une loi différente du monde. C'est une loi du monde, au sens... elle est, si vous voulez, comme si la loi était à l'intérieur de ce qui a été créé. Ou si vous préférez, la parole d'Hachem, qui est la création, qui est la Torah, d'accord, elle est dans ce qui a été créé. Elle n'est pas extérieure. Donc c'est la Torah, de ce point de vue-là, elle est la loi propre de la chose. Elle n'est pas une loi de la chose, une loi qui permet de gérer la chose. Elle est la loi propre de la chose. Elle est à l'intérieur, elle est le cœur de tout ce qui est créé. Donc ça veut dire que, si on veut prendre un exemple, il y a une mitzvah dans la Torah de Kibud Av V'Aim, de donner du poids, du kavod à son père et à sa mère. Alors, c'est pas qu'il y a une loi qui vient dire quel genre de, comment on doit traiter son père et sa mère. Le père et la mère ne sont que, en quelque sorte, l'épaississement, en quelque sorte, de la phrase « Kabel et Avicha et Imecha ». C'est ça le... Et si maintenant, ceci, vous lui donnez de l'épaisseur, si on peut parler comme ça, au cœur de cette chose-là, il y a la loi en question. La loi n'est pas... La loi n'est pas extérieurement plaquée, même de façon parfaite. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça qu'on veut dire. Il y a créé d'abord la tête de la chose. Ça veut dire, d'abord, c'est comme s'il y avait une émanation qui allait s'épaissir. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on décrit dans la formation des mondes successifs. Le monde de l'émanation, ensuite le monde de la bria, il y a Yetzira et le monde dans lequel nous sommes, le monde de la Sia, d'accord ? Où effectivement, le monde de la bria dont on parle ici, c'est pas du tout le même monde que le monde dans lequel nous sommes. N'est-ce pas ? C'est fait partie des erreurs que font beaucoup de gens. S'imaginer que ce que décrit la Torah, c'est elle décrit la création de ce monde-ci. Alors, elle décrit bien la création de ce monde-ci, mais en disant d'où il vient ce monde. Ce monde-là, il vient du monde de l'émanation, du monde de la création, de la Bria, de la Yitzira, et ensuite la Asiya. Donc, et du coup, les choses, elles ne sont pas du tout obligatoirement dans le même ordre, etc., parce que, comme on dit, sauf Massé Marchavatrila, c'est-à-dire que quand on construit quelque chose, c'est le produit fini était ce qui nous était venu à l'idée quand on a commencé. D'accord ? Quand quelqu'un a commencé à vouloir construire cette table, il a vu une image de cette table-là, dans sa première. Puis ensuite, il a eu besoin d'une liste de matériel pour savoir du bois, du métal, etc. Ensuite, il a besoin de cotes, etc. Puis ensuite, un plan, etc. Tout ça, c'est venu dans l'épaississement, si on voulait, de la chose. Mais l'image était... La première chose, c'est une image de ce qui est fini, de ce qui est à la fin. Sauf Maasé, ce qui est à la fin du Maasé, de la Asiya, Marchava, quand on a commencé à y penser pour le créer, c'était au tout début. Enfin, il n'a pas... si vous imaginez que cette table, elle a été produite à partir d'un programme... enfin, d'une machine qui était programmée avec un programme avec des 0 et des 1, quoi. Il y avait une suite de 0 et de 1. D'accord ? Et ça n'a rien à voir avec la table en question, mais c'est bien cette suite de 0 et de 1 qui est à partir de laquelle l'ordinateur il a créé un plan, et puis ensuite la machine est là, on lui a donné le plan, et la machine, le robot, il a fait la table. C'était ça initialement. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah, et la Torah est le réchit, elle est le début de la création. Elle n'est pas un plan de la création. Alors, ce qui nous induit éventuellement en erreur, c'est, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, istakel beoraita ubara alma. Il a observé, l'istaklut, c'est regarder avec attention. Mais c'est ça, regarder avec attention, ça veut dire tenir compte de, comme quand on doit regarder ce texte, justement, il faut regarder tous les mots, il faut regarder dans les mots comment les choses sont écrites, et pas seulement comment elles sont lues, par exemple. C'est important, dans un Sefer Torah, de savoir comment on écrit. Par exemple, quand on lit la Torah, Shabbat à la synagogue, si vous lisez le mot auto qui veut dire lui, vous ne savez pas si ce mot est écrit Aleph Vav Tav Vav, ou bien Aleph Tav Vav. C'est pas possible de le savoir. D'accord ? Donc, Istakel, on dit les Chachamim, pourquoi ils sont appelés Sofrim ? Parce qu'ils comptaient les lettres. Ils savaient exactement quel nombre de lettres. Donc, dans les mots, ils savaient quel mot était écrit Chasser, avec sans Vav, quel mot était écrit avec un Vav, etc. Ça, c'est la Istaklut qu'il faut regarder très attentivement. Istakel Beoraita, c'est pas il a regardé dans la Torah, etc. Non, non. Parce que Pour bien que la création soit la continuation de ce qui se passe dans la tête de la création, c'est-à-dire dans la Torah, il faut regarder très attentivement la Torah. Savoir exactement, c'est pas la même chose. On peut pas se contenter de dire c'est marqué auto dans la Torah. Non. Il faut savoir comment c'est écrit. C'est comme ça qu'on peut vraiment faire en sorte que le monde soit vraiment créé à partir de la Torah. Et du coup, c'est complètement faux de voir la Torah comme une loi. Parce que les lois sont des choses qui sont en dehors de ce sur quoi elles sont une loi. Bon, ça s'applique à quelque chose. Et la Torah ne s'applique pas à quelque chose, au sens il y aurait la chose, elle existerait en dehors de la Torah. Ce qu'on nous enseigne ici, c'est que ce n'est pas du tout comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de nous dire à la fois, normalement, quand on parle de création, alors le roi il fait pas tout le travail. Donc on peut penser que Hachem il va déléguer en quelque sorte, même s'il délègue à la. Ne crois pas non plus qu'il a délégué à la Torah, même si c'est lui qui l'avait créé. Il n'a rien délégué. C'est toujours lui qui crée les choses. Mais il crée avec un processus où, ça, c'est pour ça que la parole d'Hachem, elle se réalise. Nous, quand on parle et qu'on donne un ordre, il y a une différence entre le parler et la réalisation de ce qu'on a dit. Même si on a des gens qui obéissent au doigt et à l'œil, d'accord, c'est pas la même chose. L'ordre lui-même, c'est pas la même chose que ce qui a été fait d'après cet ordre-là. Mais la parole d'Hachem, c'est pas en deux temps. La parole, c'est la chose. Donc la Torah, qui est la parole d'Hachem, c'est la chose. Elle est dedans. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on nous a montré cette, me semble-t-il, cette parabole, pour bien faire la différence entre ce qu'on peut imaginer, ce qu'on aurait tendance à penser quand on parle de la création, d'un tout puissant, c'est-à-dire un roi qui fait ce qu'il veut. Ok, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas du tout ça. C'est, lui, quand il fait ce qu'il veut, c'est simplement qu'il va donner des ordres, il va choisir les artisans, etc. Quand Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash, il a choisi les artisans, etc. On peut discuter d'ailleurs son choix. Mais il ne l'a pas fait lui-même, il n'est pas venu avec sa truelle ou avec son marteau-piqueur, je dirais. Voilà ce qu'on peut peut-être dire pour commencer sur ce premier paragraphe. Ensuite, Rabbi Yehuda de Sichanin, Meshem Rab Levi. Donc, jusqu'à présent, on a eu la Pticha de Rav Hoshaya Rabba. Bon, Rav Hoshaya, lui, il a commencé. Je vous ai dit, Pticha, ça, en général, ça se fait, ils prennent un pasouk de Michelet ou du Nach, et puis avec ce pasouk-là, ils vont taper sur les psukim de la Torah pour essayer de faire des étincelles, pour solliciter, Midrash, c'est solliciter le sens, un sens nouveau. Alors lui, il a ouvert avec un pasouk dans Tehilim. Un pasouk dans Tehilim, dans Tehilim, donc 111-6, qui dit « Koach ma'asav higid le'amo », etc. Rashi le rapporte, ouais. Rashi rapporte ce pasouk. Alors ça, c'est « Koach ma'asav », littéralement ça veut dire « la force ». De ses actions, il les a racontées, il l'a raconté à son peuple. On va voir. Alors il dit, voilà, avec ce verset-là, il dit Ma'atam gila kadosh baruch hu l'Israël. Donc il a raconté quelque chose à Israël, Hachem. Pourquoi il leur a raconté ça? Ma'atam. Pourquoi est-ce qu'Hachem a dévoilé à son peuple, donc au clan d'Israël, Ma'atam gila kadosh baruch hu l'Israël ma shenivra beyom harishon ou ma shenivra beyom hasheni. Pourquoi il leur a décrit ça, ce qui est écrit le premier jour, le deuxième jour, etc. Alors la raison, mipnei ovdei kochavim ou mazalot, à cause des idolâtres, des adorateurs des étoiles et des planètes, shelo yiyu monin et Israël. Vomrim lahem, qu'il n'empêche pas Israël, il ne leur dise pas, alors, Uma shel bzozim atem. Vous êtes un peuple méprisable, en fait. Israël meshivim otam, vomrim lahem, veatem alo bzuzahi biyetrem. Mais vous aussi, en quelque sorte, on va voir. Allo kaftorim, ayotsim mi kaftor, ishmidum, vieshvut artam. C'est-à-dire, vous êtes un peuple méprisable parce que vous avez pris la terre de quelqu'un d'autre. C'est ce que Rachid rapporte sur le premier Rachid. Mais vous aussi, c'est marqué dans la Torah elle-même que les gens qui de kaftor, ils ont anéanti les autres et ils ont pris leur place. C'est pas, on va tout de suite venir. La vérité, c'est que le monde et tout ce qu'il contient appartient à Kadosh Baruch Hu. Que Sheratza, quand il l'a voulu, Natna Lachem, il vous l'a donné à vous. Ou que Sheratza, et quand il l'a voulu, Nitla Mekem, il l'a prise, cette terre, de vous. Untana là, nous, il nous l'a donné à nous. Daoudirtim, c'est ce qui est écrit dans Tehilim, justement dans ce verset. Koach ma'asa vigil lamo, la fin du verset, c'est la tête laem nachlat goyim, pour donner au Bnei Israël un héritage des peuples. Azigid laem et kol adorot. Il leur a raconté toute l'histoire, toutes les générations. Donc, là, ça commence comme ça. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu nous a raconté la création. À la limite, on pourrait dire, on n'en a rien à battre. On s'en fiche. En plus, la façon dont il nous le raconte, ça ne nous sert pas à rien du tout, puisqu'il raconte la Bria, et on ne peut rien en faire. Formellement, ça, qu'est-ce qui est dit là? Il nous l'a raconté parce qu'on va nous accuser de, sur la terre d'Israël, vous avez conquis la terre, donc vous avez piqué à d'autres. Mais vous aussi, vous avez piqué à d'autres. C'est comme ça, c'est les choses. Alors, la vérité, c'est, en fait, personne n'a rien piqué à l'autre. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu, il vous l'a donné à vous. Quand il ne voulait plus vous la donner à vous, il vous l'a enlevé. Et quand il a voulu nous la donner à nous, il nous l'a donné à nous. Et nous savons bien que ça continue. D'accord ? Cette terre qu'il nous a donnée, c'est une terre qui est susceptible de nous vomir. Et malheureusement, il nous a déjà vomi au moins deux fois. D'accord ? Ça a résulté en des exils. L'exil de Babel, on est revenu. Ensuite, on a l'exil dans lequel on est encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'Hachem ne voulait pas que nous soyons sur cette terre pendant ce temps-là. Il nous l'a enlevé. C'est pas très clair à qui il l'a donné à ce moment-là. Et peut-être qu'il l'a donné aux Romains, à ce moment-là, quand les Romains... Puis ensuite, bon, les Romains, ils ont été battus par d'autres, etc. C'est... Il raconte toute l'histoire. Ça veut dire, c'est... Au fait, la première motivation du récit de la création, du récit qui nous est fait à nous, qu'Hachem nous a fait de la création, c'est pouvoir répondre aux accusations des idolâtres. La réponse, l'accusation, c'était... Vous avez volé une terre. Et la réponse, on a volé une terre à quelqu'un qui l'avait volée, si vous voulez le voir comme ça. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que personne n'a rien volé à personne. C'est Hachem qui décide. Il y a les psukim qui disent, la guerre, Hachem dit, la guerre, c'est moi qui décide. Quand il y a des guerres, c'est moi, dit Hachem. Dans la fameuse histoire d'Avalazara, de la Gemara d'Avalazara, quand les peuples viennent se faire juger à la fin et qu'ils disent nous aussi on a droit à quelque chose, d'abord parce qu'on a fait la guerre et grâce à la guerre on a eu des progrès, c'est sûr qu'il y a l'effort militaire a permis de faire des progrès dans toutes sortes de domaines. Alors Hachem, donc il se tarde, dit on a fait des guerres, et Hachem dit la guerre c'est moi.
Il est très d'imbécile.
Ah bah, il traite d'imbécile parce que...
Oui, pas de menteur parce que...
Ouais. Donc en fait, il a attaqué le récit de la création avec ce pasouk qui dit « Koach ma'asa vigil lamo » et la fin du verset « La tête laem nachlat goyim » Donc, Akadosh Baruch Hu a raconté à son peuple pour lui permettre. Alors, c'est intéressant de voir que le verset qui parle donc du passage de la terre Israël, d'Egoïm vers les Israël, est présenté comme une nachala. Nachala, c'est un héritage. Donc, c'est étonnant de voir ça comme un héritage. Pourquoi est-ce que c'est un héritage? L'héritage, c'est ça va d'un père à un fils. Alors pourquoi c'est la même Nachlat Goïm? C'est-à-dire que quelque part, on est héritier des Goïm sur cette terre. Bon, ce texte, il ne va pas s'appesantir sur le fait que c'est l'héritage. Mais c'est frappant de dire que c'est un héritage. Alors, c'est un héritage parce qu'il y a un processus continu qui est là, qui est le fait que c'est Hachem qui vous l'a donné, c'est Hachem qui vous le prend et qui nous le donne. C'est-à-dire, on en hérite de vous, pas parce que vous nous le faites hériter, mais parce que Hachem nous fait en sorte que nous héritions de vous. Et c'est ça la continuité. Parce que Nahala, c'est comme un fleuve qui coule, vous voyez. Donc, c'est l'héritage, ça coule. Ça veut dire, dans un héritage, on n'a rien besoin de faire. C'est mourir, on fera le reste. Quoi. Donc, il suffit de mourir, et puis ensuite, ça coule. Ça passe aux héritiers. Donc là aussi, c'est comme si, voilà, ça passe. Comment c'est possible que ça passe d'Egoïm à nous? On a fait la guerre pour ça. Bon, on n'a pas, ils nous ont pas invités, prenez la suite, d'accord? Ils sont, même ces peuples-là ne sont pas morts pour qu'on en hérite. Et donc, le fil conducteur, c'est le fait que c'est Hachem qui leur avait donné, et c'est Hachem qui nous le donne à nous, après l'avoir repris de. C'est ça qui fait que ça s'appelle quelque chose qui coule, quelque chose qui passe de l'un à l'autre. Mais c'est aussi important, dans la notion d'héritage, quelque part, quand on hérite, alors on peut ensuite faire des modifications dans l'héritage, mais on reçoit les choses en l'état. Et ça, avec ça, on peut comprendre un peu cette situation qui est un peu étonnante. Quand la Torah dit au Bnei Israël, vous allez entrer en Eretz Israël, la Torah dit, vous allez trouver, les choses sont faites, vous allez trouver des arbres qui sont chargés de fruits, des vignes, etc. Vous allez trouver des maisons construites, vous allez trouver. Et quand j'étais plus jeune, je pensais toujours que, comment c'est possible qu'on va apprendre? Moi, je pensais, on va faire table rase. D'accord? On fait table rase de tout cet héritage idolâtre pour instaurer la Torah. Pas du tout. La Torah dit, réjouissez-vous, c'est très bien. Et quand on y réfléchit, c'est un peu étonnant. Ces arbres qui sont chargés de fruits, ils ont été plantés. Et quand les idolâtres l'ont planté, ils ont fait sûrement des sacrifices ou des libations, des trucs comme ça. Des choses. Ils ont pratiqué l'idolâtrie. Donc, quelque part, nous, on va hériter de quelque chose qui a été planté, construit, avec des règles qui sont, des rites, ou qui sont idolâtres. Et ça ne dérange pas la Torah. Ah, par exemple, quand on a quand vous regardez une maison idolâtre, une maison juive ou une maison, c'est pas la même maison. D'accord? L'agencement des pièces les unes par rapport aux autres, ce sera pas la même. Chez nous, on va mettre un lavabo, on ne va pas le mettre dans les toilettes, on va le mettre à l'extérieur pour pouvoir se laver les mains. On va faire éventuellement deux bacs à la cuisine pour le lait, pour la viande, etc. Il y a toutes sortes de choses qui sont typiquement juives. Une maison juive, si on construit en tenant compte de la halakha, voilà. Eux, ils ont construit en tenant compte de leur valeur à eux. Ils ont l'agencement des pièces l'une dans l'autre, etc. C'était pour leur permettre de vivre avec les valeurs qui étaient les leurs. Et là, on nous dit, t'as une maison, c'est très bien, prends la maison. Mais prendre la maison, elle est structurée complètement. C'est une structure idolâtre dans laquelle je vais pratiquer la Torah. Pourquoi la Torah n'a pas demandé qu'on fasse table rase? La seule chose que la Torah a demandé, les autels, les misbechot qu'ils ont fait, ou les arbres sacrés, ça, il faut éradiquer.
Ça, c'est pour nous enseigner qu'on peut être des transformateurs. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y ait une église qui a été construite à tel endroit, on peut aujourd'hui, sur ce même endroit, construire une synagogue.
Ah, construire, mais il n'a pas construit. C'est pas du tout construire. Oui, mais ça voudrait dire comment tu vas transformer? Ils n'ont pas touché, on ne leur a pas dit. Vous allez enlever les structures.
On va sanctifier.
Quoi?
On va sanctifier les choses.
Que tu vas sanctifier?
Les fruits, on va les.
Qu'est-ce que tu vas faire? On va faire une bracha. Tu vas faire une bracha sur quelque chose qui a été produit par l'idolâtrie. Tu ne sens pas le goût de la fille? Non, ce n'est pas comme ça. La Torah ne demande pas ça. Elle n'a pas demandé ça. La Torah, elle présente les choses comme un cadeau qui nous est fait. Vous allez arriver et tout de suite, vous allez pouvoir manger. Vous allez pouvoir jouir de cette terre directement. Il n'y a pas besoin d'attendre 120 ans jusqu'à ce que ça pousse. Non ? Bien sûr, il y aura une mitzvah de planter des arbres. Donc, ce n'est pas comme ça. La puissance de la Torah, elle est telle que, à la limite, si on avait une église, on pourrait l'utiliser. Mais il faut. C'est-à-dire que nous, on ne pourrait pas la désaffecter. Parce qu'un juif, il n'a pas le pouvoir de désaffecter quelque chose qui a été affecté à l'idolâtrie. Seul un goy peut décider que son temple, etc., il le désaffecte. Mais s'il le fait, alors c'est devenu, ça peut être une salle de réunion, on peut y aller, on peut prier là-bas, si ça a été désaffecté réellement. Aujourd'hui, je ne sais pas qui a le pouvoir, par exemple, de désaffecter une église. Par exemple, tout le problème de toutes ces églises italiennes, par exemple, dans lesquelles il y a des tableaux extraordinaires qu'on voudrait bien aller voir, mais on ne sait pas, ils ont bien transformé leurs églises en musées, mais est-ce qu'ils les ont vraiment désaffectées? Est-ce qu'ils avaient le pouvoir de les désaffecter? Qui avait le pouvoir? L'évêque du coin? Qui avait le pouvoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que c'est difficile d'entrer là-bas. Parce que c'est peut-être pas désaffecté, c'est pas parce qu'ils y ont mis des tableaux, etc., et des œuvres intéressantes qu'on voudrait voir, qu'on peut aller le voir. On ne peut peut-être pas entrer là-bas parce que c'est pas désaffecté. Et encore une fois, je ne sais pas, je ne connais pas la ha. Mais après, ce qui est sûr, c'est que nous, on ne peut pas désaffecter ce qu'ils ont fait. Un juif, il ne peut pas.
On est bien rentré en Canaan.
Quoi? Canaan, c'est pas une. Alors, c'est ça. On a enlevé les misbechot. On aurait pu imaginer qu'on va transformer. Voilà, les hôtels, on va brûler un petit peu par-dessus, on va cachériser, et puis on va utiliser les mêmes hôtels. Ça, non. Les hôtels, il faut. Les arbres sacrés, etc., tout ça, tu dois enlever.
Donc on les a désaffectés quelque part quand on les
non, a... Non, on les a détruits, complètement. Détruits, ouais. Non, détruire, c'est une chose.
Oui, oui, oui.
Désaffecter, c'est autre affaire. Donc il y a cette idée de, quelque part, il y a un héritage. Si c'est, justement, il y a cet héritage qui fait que, qu'il y a une nahala, c'est comme, considéré comme on a hérité de quelque chose. C'est étonnant, d'accord ? Nachla de Goyim. On a hérité d'une terre de Goyim, d'idolâtre.
En fait, si eux, la terre n'était pas la leur, ce dont on hérite, c'est pas non plus de leur terre.
Non, mais c'est de l'idolâtrie quand même. Ils ont installé oui, l'idolâtrie.
Oui, mais là, je parle plutôt de ce qui est écrit là, quand il dit il a donné.
Oui, il a donné cette terre en héritage.
Œuvres, mais
oui, mais eux, ils l'ont marqué. Parce que la vérité, c'est comme ça. Quand les fils de Noir ont partagé le monde, ils ont partagé le monde en trois. Et la terre, qui va s'appeler la terre de Eretz Canaan, la terre d'Israël, en fait, elle appartenait, elle était dans le domaine qui a été, qui est le domaine de Shem. Un des fils de. Et les Cananéens, qui sont les descendants de Ham, sont venus, ils ont fait la guerre. Et ils ont gagné la guerre. Ils ont chassé les descendants, les Sémites. Voilà. Et puis ensuite, nous, on est venus, sur l'ordre d'Hachem, et on a chassé les Cananéens. Bon, c'est ça le processus qui est décrit ici. Quand on leur dit, vous avez. Le texte de la Torah dit aussi. Que les Kaftorim, ils ont Ishmidoum, ils ont détruit les autres.
Est-ce qu'on peut dire ici, il y a aussi, peut-être, par le fait de la Kaftorim, qu'ils ont leur chance?
Oui, non, lui, il n'entre pas dans le pourquoi Hachem décide de la reprendre au Goïm auquel il l'avait donné, de nous la donner à nous. C'est déjà un autre problème. Mais par rapport à leur accusation, vous avez piqué la terre, non, c'est Hachem qui fait quoi ça. Alors pourquoi, ça on n'en sait rien, c'est Hachem qui a décidé. On n'est pas exactement au courant de... On peut comprendre, il y a des textes qui ont l'air de dire que, bon, c'est à cause de l'idolâtrie, que Hachem a voulu mettre un terme à l'idolâtrie dans ce pays-là. Et malheureusement, d'ailleurs, on n'a pas réussi à éradiquer complètement l'idolâtrie. Et finalement, le premier Beit HaMikdash, et donc le premier exil en Babel, il a eu lieu parce que les Bnei Israël sont tombés dans l'idolâtrie aussi. C'est une des trois, mais enfin, c'est probablement l'essentiel. Oui, les quelques Cananéens qu'on a laissés vivre, finalement, ou je ne sais pas quoi, ou c'est marqué que... Avodah Zara, c'est mocher, ça attire. Ça attire les gens. Donc, les Israélites, ils ont été attirés, et ils ont pratiqué l'idolâtrie, eux aussi, jusqu'à ce que Hachem dise, ça suffit, on est parti en galoute.
Une question. Est-ce que le Midrash, il ne laisse pas de côté la notion de la loi de la guerre? Quand un peuple est vainqueur, la loi fait que...
Oui, alors... Le Midrash, il ne parle pas de ça. Mais c'est vrai. Mais c'est sous-jacent. Ça veut dire, quand on leur dit, vous avez pris le territoire des autres, ça veut dire quoi? À quel titre vous l'avez pris? Comment vous allez vous justifier? Nous, on dit, c'est Hachem. Mais eux-mêmes, comment ils justifient d'avoir pris le... Parce que c'est les lois de la guerre. Mais justement, ici, je viens de voir, ils ont décidé en Israël de... Ils vont faire, je crois, au milieu de Hebron... De la ville de Hebron, ils vont construire. Et d'autres disent, ça va faire la guerre, etc. Alors, il y a des gens qui disent, mais là où on va construire, c'était à nous. En 29, les Arabes, ils ont fait un pogrom en Israël, ils ont tué pas mal de monde. D'accord ? Et à ce moment-là, ils se sont installés, ils ont chassé les Juifs. On est en train de reprendre ce que vous nous avez... voler en nous tuant, en faisant un pogrom. C'est un vrai pogrom. Alors, je ne veux pas la question, je ne veux pas entrer là-dedans. Si simplement, c'est marrant parce que c'est justement ce que je vois ici sur mon téléphone, dans les actualités. Cette idée que un scandale, vous prenez, vous des voleurs, c'est le leitmotiv de... Vous avez volé les Palestiniens, volé les Syriens, et voilà.
Et quand il dit qu'on reprend, il dit quand même on reprend avec l'héritage, mais on reprend avec quelque chose du peuple d'avant.
Oui, c'est ça.
On reprend pas la terre directement que Hachem nous a donnée, mais on reprend la terre que Hachem nous a donnée et une partie
du... Et le paradoxe, c'est que je me suis... C'est là-dessus qu'on s'est arrêté pour l'instant, c'est que c'est un héritage, et dans un héritage, tu prends les choses telles quelles. C'est-à-dire qu'on a reçu une terre idolâtre. Et Hachem a dit, ce qu'il faut enlever, c'est seulement les autels et les arbres sacrés. Mais le reste, vous pouvez le garder. Et je disais que c'est un peu surprenant. D'accord ? Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du paradoxe.
Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle Hachem choisit cette terre ?
Non, évidemment. Si tu veux, dès qu'il s'agit de... Alors, c'est marqué, ça c'est marqué clairement, c'est pas parce que vous êtes des tzadikim, c'est eux qui se sont disqualifiés. Eux, ils se sont disqualifiés, à ce moment-là, on va voir, vous le donnez à vous, on va voir ce que vous allez en faire. On a vu, on s'est fait virer deux fois.
Si vous pouvez garder ou vous devez garder?
C'est-à-dire?
Ce que vous avez dit, ce qui est déjà sur place, vous pouvez garder.
Oui, au contraire.
Il dit vous pouvez garder ou il dit vous devez garder?
Oui, on dit, il n'y a pas de... Au contraire, on dit c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc, vous allez voir, tout, plein de bonnes choses. Alors, ce qui m'intéresse encore maintenant, disons, c'est le début du verset. Koach ma'asav y guide les hameaux. C'est-à-dire que ce... Il nous a enseigné quelque chose, le Koach Ma'asav, et pourquoi il nous a enseigné ça? Pour pouvoir répondre à ceux qui voudraient nous empêcher de vivre sur cette terre, etc. Donc, ça veut dire, C'est pas la loi de la guerre. Ça suffit pas de répondre comme ça. Et on va répondre, c'est Hachem fait ce qu'il veut. Mais comment on peut répondre qu'Hachem fait ce qu'il veut? Il faut d'abord clairement avoir établi que c'est Hachem qui a créé le monde et que tout se passe en fonction de ce qu'il veut. Et donc, lui, il décide de nous le donner, il avait décidé de vous le donner, décide de vous le prendre et de nous le donner, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est Koach Ma'asav? La force de ses actions. Higid, c'est la chaîne comme l'Agada de Pessah. Il y a un récit, il en a fait le récit. Le récit de Koach Ma'asav, Higid Le'amo. Il en a fait le récit à son peuple. Le récit de ça, c'est ce qui est écrit dans le début de la Torah. Le début de la Torah est un récit de ce qui s'appelle Koach Ma'asav. On veut bien savoir, qu'est-ce que c'est Koach Ma'asav ici?
La création du monde.
Oui. Mais pourquoi ça s'appelle Koach Ma'asav? Ça veut dire Ma'asav, ce sont ses actions. Hachem ne nous a pas donné seulement la description de ce qu'il a fait. Sinon, on aurait pu dire Ma'asav, il guide les hameaux. Il a raconté ce qu'il a fait. Il a donné Koach Ma'asav. Le Koach, par opposition à Bepoal, c'est la potentialité, le Koach aussi. Koach Ma'asav, c'est tout ce qu'il y a dans son action. C'est pas le récit de l'action, il a créé ça comme ça. Maintenant, il y a quelque chose derrière la création. Donc, qui est le Koach de cette... Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Ce qu'il y a derrière, a priori, c'est une intention. Quand on décrit une action, qu'est-ce qui est derrière l'action? Il y a l'intention de celui qui a fait cette action. Et donc, quelque part, Hachem nous a décrit l'intention de ses actions. D'accord? C'est, a priori, c'est comme ça qu'il faut le traduire, ce Koach Ma'asav. C'est pas, on est obligé de... Voilà, c'est bon, très faible. Bon, il est faible. Donc, ce Koach Ma'asav, que Hachem a décrit, enfin, oui, il nous a décrit, il nous a dit quelque chose qui est derrière l'action, simplement. Alors que quand on lit, nous, Yom HaRishon, etc., on n'entend pas
l'intention
là-dedans. On ne voit pas l'intention divine, on voit l'action divine. Et pourtant, on nous dit ici que, en nous donnant ça, il a donné l'intention. Alors, on pourrait dire, pourquoi il s'agit d'intention? Parce qu'en réalité, ce qui est décrit, ça n'est pas ce monde-ci, comme je vous ai dit. D'accord? C'est le monde de la Bria. Attention, ça pourrait être justement que ce qui est décrit là, c'est avant la création de ce monde. Bon, il y a le monde tel qu'il est créé, le monde dans lequel nous sommes. Mais Hachem nous a dévoilé la Bria. Il nous a dit quelque chose au niveau de la Bria. C'est-à-dire au niveau, à un niveau bien plus abstrait, ou bien plus, beaucoup plus, plus près de la volonté divine, si vous voulez. Tout est parti d'une volonté divine de créer. Puis après, quand cette volonté divine, elle décide de créer, puis ensuite de former, puis ensuite de faire. D'accord? Donc, est-ce que c'est ça qu'on vient nous dire? J'approche beaucoup quand il nous a raconté ce qui a été fait le premier jour, le deuxième jour, etc. Ça n'est pas du tout la création du monde. D'accord? Et en soi, on n'aurait pas besoin... Oui? Allô? Allô? La question c'est pourquoi est-ce que On a besoin de savoir ça pour pouvoir leur répondre. En quoi c'est... Qu'est-ce qu'il nous a dit pour pouvoir répondre? Nous, ce qu'on va dire, c'est Hachem qui vous l'a donné et qui vous l'a pris et qui nous l'a donné. En quoi ce que Hachem nous a raconté de la création du monde, disons, de son Kohar Ma'asav, en quoi est-ce que c'est lié avec ce que nous, on va leur dire?
C'est le premier Hachem. Le monde appartient à Hachem.
Oui, mais d'où tu sais ça? C'est ce que Rashi a dit, c'est ce Midrash-là, Rashi.
Tu
vas pas expliquer le Midrash alors, avec Rashi. Rashi a pris le Midrash.
D'accord. Alors, on va dire que le monde lui appartient puisqu'il l'a créé.
Mais où est-ce que c'est? Bon, alors d'accord. Mais justement, dans ce cas-là, c'est pas Kohar Ma'asav qu'il fallait nous raconter, qui raconte.
C'est Ma'asav.
C'est Ma'asav. Ouais. Il a créé. Tout ce qu'on veut savoir, c'est que c'est lui le créateur. D'accord. Et maintenant, pour nous montrer qu'il est vraiment le créateur, il n'a pas simplement dit ce qu'il a fait. Il ne faut pas entendre dans le récit qui est fait ce qu'il a fait. Là, on est dans un monde et c'est lui qui l'a créé. Parce que pour ça, il aurait pu dire Ma'asav, Igid Lamo. De dire Koach Ma'asav, Igid Lamo, c'est de dire qu'il y a quelque chose antérieur, si on peut parler comme ça, ça n'a rien à voir avec le temps, hein. Mais qui est derrière le Maasé. Qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi le... Et en quoi est-ce que c'est vraiment ça qui permet de répondre? De simplement dire c'est lui qui l'a créé parce qu'il nous a dit comment ça s'est passé. Mais non, il nous a pas dit. Il nous a pas dit comment ça s'est passé dans notre monde à nous. Il nous a dit comment ça s'est passé au tout début, au début du début, c'est-à-dire avant même la création des choses dans ce monde-ci. Bon, il nous a décrit au niveau de la Bria, au moment où la création sort de quelque chose qui se joue dans la divinité. D'accord, les Mekoubalim disent que le monde de l'émanation, il est encore dans la divinité. Quelque part, c'est encore dans la Elakout. Donc c'est comme s'il y avait un mouvement divin. On n'a pas le droit de... Mais j'essaie de dire quelque chose pour qu'on puisse comprendre. Et comme s'il y a... Voilà, le mouvement de la volonté divine, d'accord, c'est cette mise en branle, qui s'appelle le monde de l'émanation, il a décidé de quelque chose, d'aller sortir, d'aller produire quelque chose. Ça, c'est encore dans la divinité. C'est comme quand vous décidez de quelque chose... Avant même que vous fassiez le moindre geste, il y a ce qui se passe dans votre tête, ou dans votre cœur, vous avez décidé, que je vais faire ça. D'accord ? Alors, mais c'est déjà, c'est quelque chose par rapport à avant que vous ne décidiez ça. Il n'y avait rien. Ensuite, vous avez décidé de faire quelque chose, et ensuite, vous allez le mettre en œuvre. Donc, Hachem nous a raconté tout ce qu'on peut raconter, en quelque sorte. Il nous a donné des informations sur la création du monde, mais au niveau le plus ancien, pas au niveau de la création de ce monde. Il nous a donné une information sur la Bria.
C'est quelque chose qui est accessible,
qui est absolument inaccessible. Donc il raconte à son peuple quelque chose que le peuple ne peut pas savoir. Que même si, d'abord on n'était pas là quand il a... La création du monde, nous, on n'était pas là. Mais on ne peut pas le savoir.
Mais il utilise quand même des mots.
Parce qu'on ne peut pas faire autre chose que d'utiliser des mots. Oui, ben, pour nous, on ne peut pas nous transmettre quoi que ce soit si ce n'est avec des mots.
C'est comme si c'était une sorte de message partiel. Quand on sait que le sens ne sera jamais accessible.
Oui, c'est ça. Ça veut dire, mais justement, c'est un privilège. Voilà, je vous fais participer au maximum de ce à quoi vous pouvez participer. Je vous ai dit la chose, je vous ai donné le code le plus secret, en quelque sorte.
Je ne vois pas l'endroit dans la Torah qui parlerait de cette...
C'est le récit de la création. qui est un récit de la création au niveau de la Bria, de Bereshit Bara. C'est à cause de ce verbe-là, de Bara, et pas Bereshit Asa. Dans le premier mot. Le premier mot nous dit, ici, je te dis que tout ce qui va suivre, là, dans ce fameux récit, jusqu'à Vaïkoulou, on commente ici les premiers mots de la Torah. Bereshit, Bara et Elokim. Ici, dans le deuxième, il a dit, Yom, il a ajouté, Machenivra, Bayom Arishon, Bayom Hasheni, etc. Rishon, Sheni, mais ça veut dire c'est etc. Il n'a pas continué. Ça va jusqu'à Vaïkoulou, ça veut dire jusqu'à la création de l'homme. Tout ça, c'est la création. Sheshet et Mebreshit jusqu'au Shabbat.
Alors, le problème, mais effectivement, comme disait monsieur, là, de toute façon, on n'a pas les capacités.
Non, mais c'est pas, justement, c'est pas du tout pour. C'est pas du tout pour que nous comprenions obligatoirement quelque chose. C'est que. Quand je te raconte quelque chose, je te dis quelque chose, éventuellement quelque chose qui touche à mon intimité, je te dis quelque chose, c'est pas sûr que tu pourras rien en faire peut-être, mais c'est un témoignage de confiance, c'est un témoignage de... Parce que c'est ça qui nous permet de dire que c'est Hachem qui a créé le monde. Hachem nous a dit comment il a créé le monde vraiment. Et pas, il nous a décrit comment le monde a été créé, si vous voulez. Bereshit Bara, il a dit quelque chose qui permet vraiment de parler de la création elle-même. Donc c'est ça qui fait que, parce qu'on pourrait dire Bereshit Bara, Elohim en plus s'écrit, comme toujours on avait vu déjà hier, la dernière fois, qu'on aurait dû écrire Elohim Bara, Bereshit. Bereshit, on a l'impression Bereshit Bara, Elohim, c'est que quelque chose qui s'appelle Bereshit a créé Elohim. Bon, ça c'est le problème, pourquoi écrire les choses de telle manière. Mais justement, peut-être pour te dire, je ne suis pas du tout en train de te raconter quelque chose que tu comprends comme ça. Non, Bereshit, Bara, Elohim. Il y a déjà tout un travail pour pouvoir lire la chose, parce que ce que je te dis, c'est de l'ordre du secret. C'est des choses qui ne sont pas accessibles du tout. Et c'est ça, c'est cette relation particulière que Amo, qu'il a raconté à son peuple. Ce récit-là, d'où est-ce qu'on le connaît, nous? Hachem l'a raconté à Moshe Rabbeinu. La Torah, c'est la prophétie de Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu n'était pas là à ce moment-là. Toute la Genèse, jusqu'à Parshat Bo, jusqu'à la naissance de Moshe, Moshe n'était pas là. Donc quand Hachem lui raconte, il lui raconte quelque chose, voilà, je te raconte, c'est, il te raconte quelque chose que pas seulement personne ne sait, mais personne ne peut savoir.
Ah, donc Shamaïm, c'est pas Shamaïm, Aret, c'est pas Shamaïm, et c'est pas Aret.
Si, c'est Shamaïm, mais Shamaïm, c'est le Shamaïm d'en haut, oui, et Aret, c'est l'Aret d'en haut.
L'herbe non plus, c'est pas l'herbe. Enfin, tout ce qui est décrit, c'est pas ce qu'on a.
C'est la racine décrit. C'est le.
C'est le.
Comment dire ça? C'est comme, je sais pas, c'est l'ADN de l'herbe, etc. Voilà. Ouais.
Les animaux non plus.
Oui, c'est ce qui va donner les animaux, mais ouais, on parle de l'état dans lequel d'accord. était la création quand ça a vraiment commencé.
Mais normalement, on n'est pas quand même là dans le monde de l'émanation.
Non, mais parce que dans le monde de l'émanation, il n'y a pas. Ça, c'est rien. La Bria commence comme ça. Création du monde, c'est à un niveau qui se passe, qui est très abstrait pour nous, parce que entre notre monde à nous, il y a encore la Yetzira, qui est la formation du monde, et puis après, plus haut encore, il y a la Bria seulement. La Bria, on pourrait dire que, imaginez que les choses soient, si on prend l'image qu'on donne aujourd'hui de la formation du monde, etc., c'est comme si on te disait quelque chose sur les premiers instants du Big Bang, quoi, longtemps, puis ensuite on va se dire quand les étoiles ont pu se former, etc. Et donc c'est ça, le, me semble-t-il, le Kohar Maasav. C'est pour ça, c'est la potentialité qu'il y avait dans son... Je te dis, c'est un monde qui était en potentialité. C'est ça qu'il nous a... qu'il raconte à son peuple, avec toutes les potentialités, parce que si on est déjà à ce niveau-là, donc c'est riche de beaucoup de choses. Ensuite, ça va se réaliser d'une certaine manière. Ça se condense, si on peut parler comme ça. Ça s'épaissit d'une certaine manière. Mais au niveau de la Bria, c'était encore plus riche. Si vous voulez, c'est comme si on disait, ben voilà, c'est peut-être ça le meilleur. C'est un monde où toutes les cellules étaient des cellules souches. D'accord ? Elles sont potentiellement n'importe quoi. Une cellule souche, c'est une cellule qui pourrait donner n'importe quoi. C'est ça, une cellule souche. Donc la Bria, on peut imaginer, c'est un monde de quelque chose qui ressemblerait à des cellules souches. Donc c'est riche de... etc.
Donc, ensuite, ça aurait pu donner plein de monde. Bon, ça a donné celui-là.
Alors, ça, oui. Alors, voilà, ça s'est réalisé d'une certaine manière. Et ça parle... Et la suite du monde va aussi se réaliser en fonction des hommes. C'est en fonction de notre conduite, conduite des hommes. C'est donc les hommes qui vont de plus en plus influencer la trajectoire du monde, si on peut parler comme ça, l'évolution du monde. Le monde évolue en fonction des actions des hommes. Ça veut dire que selon qu'on se conduit comme ceci ou comme cela, c'est... Par exemple, quand Chazal dit si Adam Arishon n'avait pas fauté, il a été créé Erev Shabbat juste avant Shabbat. Donc si au lieu de manger ce fameux fruit Erev Shabbat, vendredi, il avait attendu quelques minutes. Pendant Shabbat, c'était possible. Mais c'était la fin du monde. Le monde était terminé. Tout le but de l'exercice, c'est que dans le monde, on reconnaît Hachem. Donc il fallait qu'il montre qu'il reconnaît Hachem. Hachem m'a donné un ordre, je me plie. Il y a le Nahash qui raconte des salades, d'accord, qui me séduit, tout ce que veut, tout ce qu'on veut, mais je résiste. Il séduit même mon épouse, je résiste quand même. S'il avait résisté, le monde est terminé, c'est tout ce qui était demandé. Et après, bon, ça a pris une autre forme. Et puis ensuite, ben, on détruit tout avec le Maboul. Le déluge détruit tout. Et on recommence avec une famille. La famille de Noir. Et puis, il y a 10 générations plus tard, il y a la construction de la fameuse tour qui est construite pour aller lutter contre Hachem. Et donc, la dispersion, c'est aussi un échec. Destruction du monde, il faut tout recommencer. Et ça recommence, à ce moment-là, émerge Abraham. Parce que l'humanité s'est disqualifiée, et il y a Abraham qui dit, mais moi, je pourrais peut-être faire le job. Moi, je veux bien essayer de faire le job. Et Hachem accepte.
Dans
et tout de suite dans la Assia, mais pas dans la. Non, on est dans la Assia dès le moment où on parle d'un Adam qui fait des choses.
Même Adam.
Oui, Adam, bien sûr.
Dès la création
de l'homme,
on est dans la
Assia. Oui, peut-être, oui, c'est ça. La création de l'homme, c'est avec son libre arbitre, donc on est plus dans le. Toutes les cellules, toutes potentielles, bien que Adam ce soit tout le monde entier. D'accord, il faut imaginer Adam s'il représente toute l'humanité.
Oui.
Puis il était au Gan Eden, ça ne fait pas partie de ce monde.
Oui, bon, ça dépend. Comment on va le voir. C'est dans ce monde un endroit particulier, quoi. Dans cette création.
Qu'on leur fait.
Oui, c'est-à-dire que pour que nous puissions dire quelque chose qui ne sera pas audible par eux. Ouais, peu importe. Mais nous, quand nous voulons dire Hachem est le créateur et donc il fait ce qu'il veut, c'est lui qui l'est, etc., il faut que nous soyons certains, que nous soyons dépositaires en tout cas de quelque chose qui nous dit vraiment qu'il est le créateur.
C'est une preuve de sa confiance.
Donc il a fallu nous raconter et qu'il nous raconte toutes, comme il dit ici, il guide la et kol adot, toutes les générations, pas seulement les générations du futur, mais toutes les générations, ça veut dire, on remonte, parce que, si vous voulez, le temps qu'il y a entre la Torah et le monde, ces fameux 2000 ans, là, il est aussi présenté comme étant 1000 moins 26 générations. Parce que la Torah, elle a été donnée au bout de 26 générations. Il y a 10 générations d'Adam à Noach, 10 de Noach à Abraham, puis ensuite 6 générations jusqu'au Sinaï, jusqu'à Moshe. Ça fait 26 générations. Et donc, en fait, il y avait 1000 générations, mais les 974 générations, elles correspondent à avant la création du monde. Alors, il n'y avait rien du tout, il n'y a pas de génération, il n'y a rien du tout. C'est une façon, de même que tu dis c'est 2000 ans, mais il n'y a pas d'an non plus. D'accord, comment tu vas construire, qu'est-ce que ça veut dire les années, c'est quoi, comment on calcule une année quand, d'accord, pour nous les années c'est les années solaires ou lunaires, mais enfin on a besoin de quelque chose pour des références pour, donc quand on parle c'est un abus de langage, c'est une façon de parler, là aussi c'est une façon de parler génération, donc pour dire comme si au fond imaginez que tout ce qui s'est passé avant c'était des générations. Il y aurait eu des générations qui auraient pu vivre, etc., et qui n'ont pas eu la Torah. Alors, est-ce que ces générations, ce sont les fameux mondes qu'Hachem a créés, détruits, etc., ou elles sont dans ces mondes-là, ou pas, la vérité, ça, j'en sais rien. Je ne connais pas ça, je ne sais pas, j'en sais pas plus. Et l'important, c'est que pour nous, pour que nous puissions dire, il faut d'abord que nous, on soit convaincus, n'est-ce pas ? Que si eux, ils sont d'accord ou pas, ils n'ont pas besoin d'être d'accord.
Quel intérêt, si c'est d'accord. Pas audible par eux, quoi ? Comme monsieur dit, si c'est pas audible par eux, quel intérêt ?
Non, il faut que nous... Parce que c'est une accusation.
Oui, mais
vous êtes des voleurs. Ben alors, ça veut dire, oui, c'est vrai, mais les voleurs. Alors, on pourrait répondre, mais c'est les lois de la guerre. Mais justement, la Torah, elle ne voulait pas qu'on réponde les lois de la guerre. Elle veut dire, les lois de la guerre, c'est les conventions humaines, donc, bon, c'est... C'est pas ça, on veut donner quelque chose de beaucoup plus profond, qui explique autrement le passage de ça passe de ce peuple à cet autre peuple, etc. D'accord ? C'est autrement. C'est-à-dire plus véritable, plus, de façon plus vraie. Plus vrai, c'est ramener tout ça à la création du monde. La création du monde, bon alors, il faut qu'Hachem nous raconte tout de la création du monde. Koach Maasav, pas seulement Maasav, mais Koach Maasav. La potentialité de tout ce qu'il a fait. Et c'est cette histoire de me semble-t-il, de la bria que j'ai essayé de vous dire. C'est ça c'est pas du tout qu'on a un argument qui va être mieux audible. Même nous, c'est pas sûr qu'on comprend ce qu'on raconte. Mais pour nous, il faut qu'on sache. Oui, on connaît. Il nous a donné, il nous a tout donné depuis la naissance du monde. Mais la naissance la plus première, en quelque sorte. Pas du tout par la naissance. Les Chinois, par exemple, d'après ce qu'on m'a dit, ils comptent les années depuis la conception. C'est aussi bien que de compter depuis la naissance. Hein. Donc, ils s'imaginent, je ne sais pas combien ils font, mais c'est rétroactif, j'imagine. Bon, ça veut dire, c'est vrai, on pourrait très bien dire, je vais compter l'âge de quelqu'un depuis un certain moment dans son développement, on pourrait dire, je sais pas, si on considère que les 40 premiers jours, c'est rien du tout, ça commence au bout de 6 semaines, 40 jours. Bon, ça peut commencer. C'est ça la naissance, la conception, c'est le commencement d'une vie. Nous, on a une convention, c'est on va compter depuis le moment où il est né. Mais, par exemple, c'est, je j'avais entendu d'un des maîtres que les gens, les Shiva à Mir, en Pologne, enfin, qui étaient les élèves de Rabbi Yocham Lebovitch, qui est un grand magiar, alors ils disaient, quand on leur demandait quel âge tu as, etc., ils disaient, j'ai 2 ans, j'ai 3 ans, depuis le moment où j'ai rencontré Rabbi Yocham. C'était une telle révolution pour chacun d'entre eux que, quelque part, voilà, ma vie, elle a... C'est tout ce qui... Avant, c'est une préparation. C'est-à-dire, c'est un peu comme si... voilà, c'est, en fait, par exemple, une préparation au sens où, quand les Bnei Israël sortent d'Égypte, il n'y a pas de peuple juif encore. On sera un peuple qu'au pied du Sinaï. On était quoi dans ces 7 semaines-là, entre Pessah et Shavuot? On était quoi? On était un amas de personnes, éventuellement un petit peu groupées en tribus, etc., mais il n'y avait pas de peuple. On sera un peuple seulement quand on sera au pied du Sinaï. C'est pas clair d'ailleurs si on est devenu un peuple, et c'est parce qu'on est devenu un peuple qu'elle a pu nous donner la Torah, ou c'est parce qu'il nous donne la Torah qu'on devient un peuple. Ah bon, ça se discute. Parce que on le sait, parce que quand la Torah elle décrit les avancées, quand on passe de l'Égypte jusqu'au Sinaï, à chaque fois c'est marqué ils ont campé ici, ils ont campé là, ils ont campé là. Quand au Sinaï c'est marqué il a campé. C'est-à-dire c'est un peuple. Jusque là c'était ils ont un amas. Donc c'est un peu comme, si vous voulez, justement on parlait avant de ça, quand vous avez pendant 40 jours vous avez un amas de cellules. Vous avez une cellule, 2, 4, etc. Ça donne un amas de cellules. Et ensuite, elles s'organisent, il y a une organisation, et à bout d'un certain moment, on peut commencer à parler d'un embryon. Donc, mais avant, c'est quoi avant? Un amas de cellules. Là aussi, il y a des choses qui sont le matériau pour. De même que, par exemple, quand il a fallu construire le Mishkan, d'abord, il y a d'abord apporté des matériaux. Bon, pendant un certain temps, ils ont apporté le matériau. Après, on a dit, stop, on en a assez, on va pouvoir construire. Toujours, c'est trivial. Quoi. Il faut d'abord avoir les matériaux pour construire. Et donc là aussi, il y a une phase de... Alors, on peut dire que les mondes anciens, c'est ce dont on avait parlé là, quand le roi qui ne veut pas qu'on sache qu'il a construit son palais sur une décharge, c'est possible que les mondes anciens, les mondes qu'Hachem a créés, détruits, créés, détruits, etc., ben, voilà, ces détritus-là, ces déchets des mondes détruits, c'est sur ces déchets des mondes détruits que Hachem a créé le monde. Donc, on n'a pas tellement envie de le dire que c'est... Mais là aussi, c'est peut-être que c'est aussi ça à voir, mais ça je ne sais pas. Peut-être que avec cette histoire d'héritage des peuples, bon, il faut se demander en quoi est-ce que c'est important qu'on hérite des peuples. Pourquoi le clan d'Israël, bon, c'est un problème comme ça. Le clan d'Israël, il n'était pas là à la création du monde. D'accord? Nous, on arrive très tard. Il y a l'état de peuple avant. D'accord? En Mésopotamie, la famille d'Abraham, etc., tous ces gens-là, ils existent bien avant que nous n'existions. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils sont? C'est quoi ces gens-là avant le plan d'Israël? Alors, on peut dire, bon, ce sont les échecs. Ce que je vous ai décrit, ça n'a pas marché. Et c'est sur ces échecs-là qu'Abraham construit. Et après, ben, c'est la même chose ici. Quelque part, Eretz Israël, pour les Bnei Israël, ça va se construire sur les échecs. Donc, c'était à ça qu'ils ont servi. Ils ont servi peut-être justement à construire ces maisons, à planter ces arbres, etc., pour que quand les Bnei Israël arrivent, ils trouvent des choses déjà faites. Ah, ça a été fait dans une idée dans une idéologie idolâtre. Bon, la Torah, elle pense qu'on peut passer par-dessus. Ça veut dire on peut faire avec, on va l'utiliser, leur donner un autre sens. Très souvent dans la Torah, on prend des choses qui existaient avant, mais on leur donne un autre sens.
Est-ce que ça veut pas dire en plus que l'Israël doit se rendre redevable, ça leur prépare le terrain
Oui, alors peut-être, vous pouvez dire redevable. Il n'y a jamais de... C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une rupture radicale avec l'idolâtrie. D'accord ? Alors maintenant, on voit très bien qu'elle n'est pas si radicale que ça. À partir du moment où on ne voit plus l'idolâtrie, on a enlevé les autels, on a enlevé les arbres sacrés. Ah, les maisons, elles sont toujours construites selon un modèle idolâtre. Les arbres, ils ont été plantés avec des sacrifices humains, si ça se trouve. D'accord ? C'est comme ça qu'ils procédaient.
Oui,
non, mais ça se voit plus.
Transformateurs, on est des transformateurs. En donnant un autre sens aux choses, en fait, on les transforme.
Mais bon, c'est important de. Parce qu'on pourrait demander, mais on n'a qu'à commencer avec une table rase. Pourquoi il faut commencer avec des trucs tordus qu'il faut redresser, auxquels il faut donner un autre sens. Commençons avec une table rase.
Et ça nous enseigne quelque chose, ça.
Mais c'est... Ouais. Non, c'est ça qui est important. Quelque part. Le monde a un sens, parce que si ça n'a pas passé chez eux, alors, d'une certaine manière, on ne sait pas très bien pourquoi c'est arrivé chez nous. Donc c'est, le bien, il apparaît toujours avec un arrière-fond du mal. Si tout était bien, s'il n'y a que de la lumière, on ne voit rien du tout. D'accord ? C'est parce qu'il y a de l'ombre que la lumière est perceptible. Sinon, on ne voit rien. On est complètement... s'il n'y a que de la lumière, ça. Ça ne marche pas. Donc, on a besoin, quelque part, de ces déchets, finalement, pour les voir comme des déchets, mais en faisant abstraction, etc. Il faut gérer.
C'est un peu absurde, c'est un message d'espoir que vous nous donnez, en fait.
Oui, donc, je suis venu pour ça.
Si, c'est quand même...